On en jase sur Boulevard 102.1, il est précisément midi 36 minutes et on a le bonheur d'accueillir en studio avec nous notre chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant d'histoire en politique américaine au Cégep Garneau, Luc Laliberté. Pascal, on aime beaucoup Luc.
Moi, j'aurais aimé ça assister à ses cours.
Moi aussi.
Si je pouvais, je serais très heureuse.
Ah oui.
Mais c'est ça qu'on fait finalement.
Exactement. On a des cours en condensé à Boulevard 102. Luc Laliberté, comment vas-tu?
Particulièrement bien, puis des yeux allumés comme les vôtres et des gens allumés comme ça en classe. Écoute, j'en aurais pris, on remplirait des groupes sans problème.
Ah, merci Luc, c'est tellement gentil.
Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'atelier comme ça, là, tu sais, à côté pour des grands adultes qui ont déjà leur carrière.
Hey, tu rimes, c'est un beau... Je l'ai fait avec des politiciens pour parler à l'Assemblée nationale, entre autres, pour présenter des thèmes particuliers. Je l'ai fait pour le syndicat de la fonction publique. Donc, je suis invité à le faire, mais c'est jamais grand public. C'est pour des organisations ou des groupes particuliers, mais vous avez peut-être une bonne formule.
Ah oui, on va louer un pub.
Voilà.
Moi, j'avais proposé au boss il y a quelques années. Fait que si jamais il y a des auditeurs qui sont comme moi, j'embarquerais, vous allez me donner peut-être un petit push, là. 88-971-102.
Let's go.
Le bureau est loin en sortant.
Pas si pire.
S'il y a des auditeurs qui veulent un cours privé avec Luc Laliberté, 418-971-102, textez en grand nombre. Luc, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on n'ait pas une controverse avec Donald Trump.
Oui.
Et là, la grosse controverse depuis hier, c'est Marjorie Taylor Greene, qui est une républicaine qui ne s'entend plus bien avec Donald Trump et qui va quitter les rangs, dans le fond. J'ai bien compris, là.
Écoute, c'est un revirement de situation dans le cas de Marjorie Taylor Greene. Si on ne connaît pas la politique américaine, on ne peut pas avoir de virage plus brusque que ça. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître, qui s'est fait élire, qui s'est démarqué en étant plus Donald Trump que Donald Trump. Donc, retournez ne serait-ce que sur YouTube, le voir des vidéos de campagne électorale, des publicités de campagne électorale. C'est impressionnant dans tous les sens que peut prendre le terme « impressionnant ». Et après avoir été aussi collé et fidèle à Donald Trump, ça fait deux semaines qu'elle est devenue une chouchou de réseau de télévision où on ne la voyait jamais avant. Pas parce qu'on ne l'invitait pas, parce qu'elle redéclinait ou refusait des invitations. Que s'est-il passé? Pourquoi ce changement soudain? Et j'ai hâte de voir combien de républicains vont la suivre, parce qu'on va peut-être voter à la Chambre des représentants là, sur la divulgation du dossier Epstein. Donc, et il semble y avoir tout un mouvement chez les républicains pour voter en faveur de la divulgation. Donc,
ça peut-tu être justement qu'on a pris compte de certains dossiers puis là qu'on ne connaissait pas ces infos-là, donc on se dissocie maintenant de là?
Moi, je pense que on est de retour à la démocratie, à la base, aux pratico-pratiques. Je pense qu'elle a regardé les sondages dans sa circonscription. Je pense qu'elle a regardé le comportement de ses électeurs. Elle a dans son groupe d'électeurs beaucoup de gens qui croyaient dans le message de Donald Trump, qui était « Moi, je suis indépendant, personne ne peut m'acheter et on va jeter ce système-là par terre. » C'est-à-dire tout ce qui était élite protégée, surprotégée, les gens qui s'en mettaient dans les poches, « Votez pour moi. » En anglais, vous vous rappelez peut-être de l'expression « drain the swamp ». On allait assécher le marécage. D'ailleurs, la ville de Washington, en passant, était un marécage avant qu'on en fasse la capitale des États-Unis. Donc, alors Donald Trump a passé ce message-là. Et là, on se rend compte sur au moins un dossier, peut-être sur plus, mais sur au moins un dossier, le dossier Epstein, que finalement, Donald Trump, en s'opposant jusqu'à hier à la divulgation du dossier, bien, il protège justement cette élite-là. Son nom, à lui, est mentionné, ça va. En passant, il n'a rien fait d'illégal, mais c'est clair, on est capable de documenter maintenant son amitié avec Jeffrey Epstein, puis le genre de rapports ou discussions qu'ils ont pu avoir. Mais ça veut dire que Donald Trump, dans la tête des partisans de Marjorie Taylor Greene, pourrait se protéger lui et tous les autres.
Parce que protéger cette fameuse élite.
Cette fameuse élite. Donc, Epstein, c'était le gratin mondain. Donc, rappelez-vous, là, il y a des noms, le prince Andrew, par exemple, pour le Royaume-Uni. Bill Clinton, chez les démocrates. M. Clinton a eu encore à s'exprimer en fin de semaine à ce sujet-là, lui ou ses porte-parole. Mais là, il y a un certain nombre de gens très influents, des avocats, des juges, des hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui ont frayé avec Epstein. Donc là, on se dit, attendez un peu, on pensait, nous, que quand il était question, par exemple, de pédophilie, de trafic sexuel, de trafic humain, ce dont Epstein ou Maxwell, son ancienne compagne, mais associée aussi, qui est derrière les barreaux. Mm-hmm. On se disait, ben, on pensait que rendu là, là, c'était comme, c'est une ligne ce qu'on franchissait pas. Là, qu'on, et là, j'ai l'impression que Marjorie Taylor Greene, devant tout ça, a très bien compris le mouvement et qu'elle est en train de protéger sa réélection.
On va justement l'écouter hier sur les ondes quand tu parles d'un réseau de télévision où elle n'allait pas, sur les ondes de CNN.
Avec Dana Bash.
Dana, I think that's fair criticism, and I would like to say humbly, I'm sorry for taking part in the toxic politics. It's very bad for our country, it's been something I've thought about a lot, especially since Charlie Kirk was assassinated. Is that I'm only responsible for myself and my own words and actions, and I am committed, and I've been working on this a lot lately, to put down the knives in politics. I really just want to see people be kind to one another, and we need to figure out a new path forward that is focused on the American people, because as Americans, no matter what side of the aisle we're on, we have far more in common than we have differences. Yeah. And we need to be able to respect each other with our disagreements.
C'est pas rien, Luc, parce qu'elle s'excuse pour ses actes. Elle mentionne que depuis la mort de Charlie Kirk, elle s'est rendue compte à quel point il fallait unir l'Amérique et qu'on était beaucoup plus similaires qu'on le croyait, qu'on est différents. C'est complètement à l'encontre de sa propre politique et de celle de Donald Trump. Et
peux-tu la croire?
Et c'est, ben ça, c'est une autre question. Je vous entendais en passant le segment qui a précédé notre conversation. Oui, oui. En venant, vous parliez des conservateurs, vous parliez du PQ. Vous parliez on est habitué à ça, ce qu'on appelle les flip-flops, hein, les changements en politique. Par exemple, à la veille d'un budget, est-ce qu'on renie nos déclarations ou on explique bien pourquoi on va le faire? On est devant ça. Là. C'est un gigantesque flip-flop. Et elle s'est vraiment présentée à Dana Bash. Elle lui a offert le bâton en disant « frappe-moi, finalement ». Elle dénonce la rhétorique qui est très dure, parfois en politique, qui a même été violente, qui se tourne parfois vers la haine. Puis là, ben, Dana Bash ne pouvait pas faire autrement que de dire à Marjorie Taylor Greene, c'est parce que... Vous avez fait votre carrière politique avec ça là, jusqu'à maintenant. Donc, c'est là où je dis, c'est un virage. On va le voir aux élections. Est-ce que ses partisans vont être convaincus finalement que c'est plein de... Elle l'est peut-être bien intentionnée. Le test, c'est toujours est-ce que l'électeur nous croit. Oui. Donc, on va le voir. Mais si elle bouge comme ça ou si elle agit comme ça, dites-vous que c'est parce qu'elle sent la soupe chaude. Et être représentant, puis Pascal, je sais que tu as une question, être représentant aux États-Unis, c'est être constamment en élection. C'est une représentante de la Géorgie, donc Mme Taylor Greene. Ça veut dire qu'on est une élection vient de se terminer, puis on est déjà en levée de fonds pour la prochaine campagne, puis on est déjà à solliciter nos membres. On est déjà à se présenter encore sous notre meilleur jour aux électeurs. Ça explique d'ailleurs pourquoi le Sénat, c'est aux 6 ans qu'on est élu le mandat. C'est qu'on nous retire un peu du jeu politique partisan, alors que les représentants sont dedans à 100%. Donc, c'est des bons indicateurs du climat politique ou des tensions, parce qu'eux ne peuvent pas se permettre d'erreur. Ils n'ont pas de marge de manœuvre.
Mais c'est impressionnant parce que c'est un risque politique qu'elle prend. En voulant dire, moi, je ne parlerai plus à ceux qui m'ont élu finalement aux dernières élections parce que je me dissocie de Donald Trump. J'essaie de conquérir les prochains ou une autre strate complètement. Parfois, tu te dis, bon, ils se sont fait élire dans un gouvernement qui pensait effectivement qu'il allait passer. Cette fois-ci, c'était Donald Trump. Mais quelles sont ses vraies valeurs? Au niveau politique, voilà. tu vois ça comment, toi? Parce qu'on ne parle pas d'un changement de cap du genre, je quitte ce parti politique-là parce qu'il ne fait plus partie des valeurs politiques au départ que le parti avait. Donc, je décide d'aller indépendant ou je décide d'aller seul. J'ai appuyé fondamentalement des propos de l'homme en question et donc je renie ces anciennes valeurs-là de ma propre personne pour en avoir de nouvelles. Quelles sont les vraies? Elle veut réunir le peuple, mais...
C'est particulièrement intéressant parce que, d'abord, on n'a que deux grandes formations politiques aux États-Unis. Donc, on devine qu'il y a des groupuscules dans chaque parti. Et on pourrait faire une chronique complète sur les divisions actuellement du Parti démocrate puis sur l'attitude qu'on a depuis que Mme Dany a été élue à New York. Ça, c'est comme un cadeau empoisonné, cette victoire-là, pour le Parti démocrate en prévision des prochaines élections. De l'autre côté du parti, du côté des Républicains, je dirais qu'une des forces du Parti républicain, mais là, on ne parle pas de principe, de grandeur d'âme, de noblesse d'intention, c'est que le Parti républicain, mais c'est une force au plan électoral, c'est un chiffrier Excel. C'est-à-dire qu'on prend deux colonnes, les gains, on prend les pertes, puis on s'assure de maximiser les gains. C'est-à-dire que nos valeurs, nos principes, j'espère que je le vulgarise bien, mais à un moment donné, c'est au deuxième rang. Qu'est-ce que ça nous prend pour gagner? Oui. Puis une fois qu'on sera au pouvoir, peut-être quand on... Puis on le voit, je vous écoutais parler d'indépendance avec Paul Saint-Pierre Plamondon tout à l'heure en mentionnant PSPP. Là, je me disais, est-ce qu'on en parle d'indépendance ou pas? Là, jusqu'où on va? Puis on fait un pari. Est-ce que c'était mieux de taire l'idée de l'indépendance? Mais une fois au pouvoir, on va ramener ça.
En même temps, c'est ce qui définit comme personne ou comme parti. Ouais, fait donc, que là, dans une ère où le monde réclame ça.
Le Parti républicain, lui, quand on regarde d'ailleurs comment Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a maximisé la grogne de beaucoup d'électeurs, mais ce n'était pas assez au départ pour le faire gagner. On l'a gardé parce qu'il nous rapportait de très, très bons sondages pour nos débats télévisés. Puis, au début des primaires, ça a braqué les projecteurs sur l'ensemble des candidats républicains. Mais quand on a essayé de le freiner après, parce qu'on a essayé de le faire, c'était « Oh, il est trop tard.
Il est
maintenant,
trop tard,
faut faire
ça.
Avec. » Et quand on fait avec, on pourrait se faire un montage audio de sénateurs et de représentants républicains qui, à l'intérieur d'une semaine ou deux, ils avaient attaqué violemment Donald Trump, le traitant de ce qu'il y avait de pire au monde. Et deux semaines plus tard, il l'encensait, disant « il va changer le pays ». Écoute, Marco Rubio, qui est son secrétaire d'État...
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Son secrétaire d'État a été un farouche adversaire de Donald Trump.
Mais dans un sens, c'est une force. C'est-à-dire que si l'objectif ultime pour changer les choses, c'est d'avoir, c'est de parvenir au pouvoir, vous faites... En même temps, c'est très dur, c'est cru, c'est la force pour la force. Mais... si pour changer des choses, il faut avoir le pouvoir, on est prêt à presque tout sacrifier pour parvenir au pouvoir.
Mais ça
et je pense
peur.
Que c'est... Oui, bien, c'est-à-dire
pas
que...
Pas peur, j'en dors pas la nuit.
Non, mais en effet...
Mais peur d'où s'en va la politique, bien
oui,
qu'elle a été
fait.
Comme ça tout aussi longtemps qu'elle existe.
C'est là où je comprends souvent... parce que quand on fait du commentaire politique, on finit toujours par être étiqueté. Puis des fois, je suis à droite, des fois, je suis à gauche, plus à gauche. Mais c'est difficile de pas comprendre que les gens deviennent cyniques avec le temps quand on a ça. Et c'est même difficile, quand on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, de croire un politicien. Moi, je me souviens encore, au plan politique, on pourrait faire un bilan de la présidence Obama qui sera en demi-teinte. Là, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des limites au système aussi. Mais c'est rare un politicien comme Obama qui s'est présenté comme quelqu'un de bien, quelqu'un de principe, et qui, à la fin de sa présidence, quitte, et on a encore cette impression-là.
T'as raison.
On peut trouver qu'il a pris de mauvaises
décisions.
Il n'y a
pas eu tant d'usure du pouvoir dans le cas d'Obama.
Puis, moi, je ne me rappelle pas d'un squelette. Une relation d'affaires avec un agent d'immeuble qui avait un passé un peu douteux, là, une transaction, mais sinon... J'essaie de trouver quelque chose de majeur où on se dit « Ah, qu'est-ce que ce gars-là nous a eu? Hein? Il nous a vendu de l'espoir, puis il nous a vendu du bonheur. Yes, we can. » Je répète, au plan politique, il y a du bon et du moins bon. Ça, je peux faire ce bilan-là. Mais de l'autre côté, c'est presque trop beau pour être vrai. C'est comme « Ah, ça existe une famille qui est un couple qui est ensemble et qui a l'air de vraiment s'aimer. » Parce qu'on pouvait regarder Bill et Hillary Clinton et trouver que c'était un couple qui avait énormément de pouvoir. Mais on devine que la maison, les journées où
ils
acceptaient d'être
amour,
ensemble, ben, c'est-à-dire que c'est un amour qui était différent. C'est une relation où on s'appuyait mutuellement.
Une relation d'affaires.
Voilà. Mais ça ressemblait moins à la vision, entre guillemets, plus traditionnelle ou romantique, en tout cas, du couple. Alors
vraiment?
Que les Obama nous ont offert ça.
Tu as entièrement raison.
Alors, le Parti républicain est un petit peu là avec Marjorie Taylor Greene. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser, c'est de voir Donald Trump, normalement, son nom ne revient pas sur les bulletins de vote. Il n'est pas là en 2026. L'année prochaine, c'est des élections pour la Chambre des représentants ou le Sénat. Le président n'a pas d'affaire là. C'est-à-dire que ce n'est pas son siège qui est en jeu, mais il peut avoir une influence. Sinon, en 2028, il a fait ses deux mandats, Donald Trump. Donc là, il y a des républicains qui commencent déjà à penser jusqu'à quel point on suit Donald Trump? Parce qu'à un moment donné, il va partir. Donc, est-ce qu'on y va plus pour nous-mêmes, pour notre circonscription, ou on essaie de voir qui sont les nouveaux meneurs qui s'en viennent? C'est ça la réflexion qu'on va mener. Et en passant, la ligne de parti aux États-Unis est moins forte que la ligne de parti qu'on a au Québec et au Canada. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'adapter le discours en fonction de la région du pays où on est. Donc, un républicain de la Californie puis un républicain de l'Arkansas, ça ne dira pas la même chose. On peut faire le rapport inverse pour les démocrates aussi.
En effet.
Un démocrate va être plus conservateur à certains endroits et plus progressiste à d'autres.
Luc, je veux pas te laisser partir. On parle avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, avant de t'entendre sur la visite d'Ahmed Al-Sharaa. Puis c'est toi qui m'as allumé là-dessus dans ta chronique de dimanche dans le journal de Québec, Journal de Montréal. C'est un ex-terroriste d'Al-Qaïda en Irak qui a été emprisonné par les Américains. Lui, il a fait tomber en novembre 2024 le président syrien Bachar al-Assad. Mais là, Donald Trump, qu'il reçoit à la Maison-Blanche, je trouve qu'il y a de l'invraisemblable là-dedans.
C'est Je ris, en fait, quand on regarde ça avec la perspective. Vous comprenez ça de haut, ça se comprend. Et j'ai même dit dans ce texte-là que je pense que Donald Trump a raison, pas de le recevoir à la Maison-Blanche, mais de se rapprocher de la Syrie.
De tisser des liens?
Oui, voilà. C'est peu importe qui est à la... Quand on fait des relations diplomatiques, quand on fait de la politique étrangère, quand on veut jouer sur l'échiquier international, il y a des gens qu'on condamnerait chez nous, qu'on ne voudrait pas avoir, et on va se lier avec eux pour protéger des intérêts stratégiques. Quand il est président la première fois, Donald Trump est celui qui retire les troupes du nord de la Syrie. Et je me souviens encore, on avait fait un plat avec ça, les Européens étaient catastrophiques.
Ah oui, parce que ça laissait la place à la Russie.
Voilà, puis c'est qu'en plus, pour l'image des États-Unis, c'est qu'on avait soutenu les Kurdes qui faisaient, entre guillemets, le sale travail pour les Américains sur le terrain. Et là, on part en leur disant pas merci, bonsoir, on s'en va, on quitte. On laisse les Kurdes en perdition, ou en tout cas, on vient de les déstabiliser comme il faut, et on laisse la place à d'autres joueurs, dont la Russie. Mais là, 2025, la donne a changé. Donc, Bachar al-Assad, qu'on pensait presque éternel à un moment donné, est tombé. Et la Russie est beaucoup moins stable par rapport dans ses relations avec la Syrie.
Pris dans d'autres conflits, là, notamment en Ukraine.
Pris dans d'autres conflits. Puis, on doit retisser, sous Bachar al-Assad, la Syrie pour la Russie, c'était une espèce de terrain d'entraînement. On pouvait tester des armes, on pouvait tester des stratégies. Le lien était direct. C'est moins clair avec al-Shara, le nouveau meneur, que ça se passe de la même façon. Et là, j'ai trouvé intéressante cette situation-là pour les Américains, considérant que dans la région, les choses ont changé. Donc, il y a les accords d'Abraham, hein, où on veut stabiliser économiquement cette région. Donc, on veut essayer d'atténuer les rivalités, les guerres pour tisser des nouvelles relations économiques. Il y a le cas d'Israël, bien sûr. La Syrie puis Israël, bien, c'est important pour les Américains, dans la logique américaine, d'être bien positionnés. Puis le message est fort à la Russie. Quand on regarde l'Ukraine, par exemple, j'ai toujours dit, la stratégie de l'administration Biden en Ukraine, c'était... On va être là quand l'Ukraine va se relever. Mais c'est un message qu'on passe ailleurs, en Asie, entre autres, et aux Russes. Donc, là, l'administration Trump refait ça. Et je trouvais que la stratégie de Biden était intéressante. Je ne vous dirai pas le contraire parce que c'est Donald Trump.
Parce que c'est Donald Trump.
Mais ce qui avale, ce qu'on a plus de difficultés à avaler, c'est que cet individu-là est un terroriste. On pourrait faire son histoire dans une série et ce serait épouvantable. Et ça me rappelle, en même temps, les liens qu'on entretient avec l'Arabie saoudite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Joe Biden, il y avait eu un grand débat à un moment donné parce que Joe Biden, en campagne électorale, avait dit que Mohamed Ben Salman puis l'Arabie saoudite, ça allait être des parias parce qu'ils avaient autorisé l'assassinat d'un journaliste américain.
Oui, je me souviens très bien.
Et quand il revient au pouvoir, Joe Biden, ben, il va aller au Palais Royal rencontrer Mohamed Ben Salman et celui qui l'a traité de paria, là, il hésite entre est-ce que je lui serre la main ou je lui fais un fist bump? Et il va, c'est ridicule vu
l'extérieur. Il a fait le fist bump.
Il a fait le fist bump en disant c'est moins compromettant. On ne sait pas. Mais c'est gros, faut comprendre
c'est
l'espèce
l'image.
De calcul. C'est ça, mais c'est l'image ouais. qu'on voulait protéger. Mais en même temps, on sait très bien qu'il fait ça à reculons, tout comme on devrait le faire à reculons aussi avec al-Shara. Mais là, ce que Donald Trump a fait, c'est de le recevoir littéralement à la Maison-Blanche pour un ancien terroriste et pour un meneur syrien. C'est une sacrée reconnaissance qu'il lui a donnée en voulant rétablir les ponts.
Luc Laliberté, c'est toujours un bonheur de discuter avec toi, un bonheur encore plus grand quand tu es présent en studio avec nous. Merci beaucoup.
Ah, quand je le peux, je le fais toujours. Discussion. Très, très agréable. Merci beaucoup.
Ça fait
Merci.
Plaisir. Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine pour nous à Boulevard et également ex-enseignant de l'histoire des États-Unis au Cégep Garneau. Dis-moi non, il me semble